Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue du grain à moudre d'été. Ce soir, les partis politiques ont-ils encore des valeurs ? Qu'est-ce que la droite ? La question était posée avant-hier à Paris au cadre des Républicains, cadre peu nombreux à s'être déplacés. Les rangs de cette convention étaient plutôt clairsemés. Qu'est-ce que la droite donc ? Question existentielle pour une formation moribonde à la recherche non seulement de ses électeurs, mais aussi et peut-être d'abord de son identité, de ses valeurs. Et c'était cela l'objectif de la réunion, discuter de ses valeurs, négligées, oubliées, voire perdues, en réaffirmer certaines, voire en définir de nouvelles. Elles doivent être dévoilées demain. À gauche aussi, c'est un sujet. Au Parti Socialiste par exemple, autre parti de gouvernement laminé ces derniers mois, sujet encore discuté, pas encore tranché, il faut dire que les déroutes électorales ont laissé des traces et que de nouveaux thèmes structurent la vie politique. Pas facile de suivre donc et de s'adapter, surtout quand on a été accusé de trahir ses valeurs. Bref, les partis politiques ont-ils encore des valeurs ? Pour répondre à cette question, quatre invités. Christophe De Vogt, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, professeur à Sciences Po, où vous enseignez l'histoire des idées politiques. Sandra Laugier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris 1, co-auteur avec Albert Augien de « Pourquoi désobéir en démocratie ?». C'est aux éditions La Découverte. On le verra, la désobéissance et les valeurs, du moins certaines en tout cas, peuvent faire bon ménage. Jérôme Sainte-Marie, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de Polling Vox, un institut de sondage, auteur du « Dernier ordre démocratique » aux éditions...
Nouvel ordre démocratique.
Il y en aura d'autres, sûrement, aux éditions du moment. Vous êtes intervenu samedi lors de la convention organisée par les Républicains à Paris, celle que j'évoquais il y a quelques instants. Et puis Vincent Tibéry, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en duplex de France Bleu Gironde à Bordeaux, vous êtes professeur à l'IEP de Bordeaux et vous êtes l'un des auteurs, l'un des contributeurs d'une grande enquête publiée fin avril, La France des valeurs, 40 ans d'évolution. C'est publié par les presses universitaires de Grenoble.
C'est vrai. La France est une chose, à mes yeux, très considérable, très valable. Elle doit avoir un rôle à elle. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France.
La gauche, voyez-vous, cherche d'abord la justice. Notre objectif, nous, c'est le bien-être et le bonheur de l'homme. Mais nous ne sommes pas des naïfs. Et nous savons qu'il faut structurer et diriger et organiser la société.
Alors ce que je souhaite pour ma part, au contraire, c'est le changement, c'est-à-dire le développement, le progrès de ce qui a été entrepris. Alors on me dit que ce changement, c'est seulement le changement des hommes. Non, M. Mitterrand, c'est le changement d'une génération et c'est le changement d'hommes qui ont dans l'esprit et dans le cœur la préoccupation de l'avenir.
Le socialisme est une doctrine à la fois dépassée, mauvaise et en réalité inhumaine, inhumaine dans le sens où elle n'est pas conforme à la dignité, à la responsabilité et à la liberté de l'homme.
Le patriotisme économique, c'est la possibilité de donner un avantage dans la commande publique aux entreprises françaises. Voilà un moyen de réoxygéner nos entreprises.
Alors ce nouveau temps de notre République, je veux lui assigner un objectif simple. Redonner une espérance de progrès à chacun en demandant à chacun le meilleur de lui-même.
Le progrès pour Emmanuel Macron et Valéry Giscard d'Estaing, la justice pour François Mitterrand, la liberté pour Jacques Chirac, le patriotisme pour Marine Le Pen, et puis une certaine idée de la France pour le général de Gaulle. Voilà quelques exemples de valeurs souvent utilisées en politique. On en a là un bon exemple dans ces extraits compilés par Thomas Jost. On va longuement y revenir dans cette émission. Avant de commenter et de commencer à parler des valeurs politiques et des partis politiques français, je voudrais qu'on s'arrête sur ce mot, valeur, cette définition qu'on définit. Ce mot valeur, Sandra Laugier, c'est un mot qu'on emploie souvent, un mot partant usé aussi, à qui on fait dire beaucoup de choses. Quel sens a la notion de valeur ?
Alors c'est une notion qui est en effet très très complexe et qu'on va opposer très très classiquement aux faits. Hein. On oppose les faits et les valeurs parce qu'il y a des réalités, de l'expérience par exemple, hein, dans un monde qui nous entoure. Et puis les valeurs, c'est quelque chose qui ne va pas être de l'ordre du fait de la réalité, mais des entités qu'on va dire en philosophie peut-être transcendantes, hein, qui sont indépendantes du réel et de ce qu'on fait, et qui ont en effet cette existence particulière. Et donc il y a tout de suite en fait des problèmes et une ambivalence dans cette notion, puisque soit elles existent en tant que telles, donc bah justement celles qui ont été évoquées hein, par certains hommes politiques comme si elles étaient intangibles et qu'elles existaient indépendamment de nous et comme s'il fallait finalement s'y soumettre. Mais la question qui se pose, c'est qui a décidé ces valeurs, qu'est-ce qui va leur donner ce statut. Donc, soit elles sont effectivement transcendantes de façon peu justifiable, soit on va dire, eh bien, chacun ses valeurs. C'est ce qu'on a l'impression d'entendre lorsque on entend tous ces hommes politiques, hein, surtout des... Oui, il y a une femme quand même, mais surtout il y a des hommes, donc c'est ça, des valeurs masculines. Mais en tout cas, soit on va dire les valeurs, c'est... Chacun décide ce qui vaut et qui compte pour lui ou elle. Donc soit c'est complètement intangible, mais on ne voit pas pourquoi, soit c'est complètement subjectif. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut vraiment justifier des valeurs et s'entendre sur elles? Et donc la valeur, c'est vraiment une question philosophique constante. Hein. C'est la question d'ailleurs qui est à l'arrière-plan de toute la philosophie morale et politique, puisque la morale dépend beaucoup de valeurs et la politique est en réalité finalement un conflit de valeurs. Et donc cette question du statut des valeurs, elle reste complètement essentielle et non résolue. C'est ça qui en fait l'intérêt.
Exactement, c'est une notion mouvante. Christophe de Vogt, quand on parle de valeurs en politique, qu'est-ce qu'on entend par le mot valeur?
D'abord, je vais tout à fait dans le même sens que Sandra Logier, c'est-à-dire que la politique, c'est à propos des valeurs. C'est d'ailleurs une référence qu'on peut partager entre un politologue, une philosophe et un historien. C'est Max Weber qui l'a écrit. Hein, c'est vraiment ce qu'il appelait la guerre des dieux. Hein, c'est-à-dire que il y a des convictions qui s'affrontent et la politique est là pour arbitrer à travers, comme il dit, une éthique aussi de responsabilité. On pourra y venir parce que c'est ce qui permet parfois de supprimer de combler un peu le fossé entre le fait et la valeur, hein, c'est l'éthique de responsabilité, qui est normalement l'éthique du politique. Mais donc c'est une question qui reste fondamentale, et bravo pour votre extrait sonore, puisqu'il donnait en effet, peut-être d'ailleurs plus qu'aujourd'hui, un panorama des valeurs qui correspondent assez bien aux familles politiques françaises, avec cette chose très intéressante d'ailleurs, que j'avais jamais vu vraiment, la même valeur de progrès chez Giscard d'Estaing et chez Emmanuel Macron, qui d'ailleurs les place en dehors, pas par hasard, du vieux conflit droite-gauche, puisque le progrès est une valeur qui est un peu transpartisane et que moi j'appelle une valeur saint-simonienne.
Il y en a d'autres aussi, hein, des valeurs transpartisanes. Avant de donner la parole à Jérôme Sainte-Marie, Vincent Tibéry, vous qui avez contribué à écrire la France des valeurs, qu'est-ce que vous entendez, vous, par valeur quand on parle de politique?
Si on regardait simplement la littérature, on verrait plusieurs centaines de définitions opératoires des valeurs. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, les valeurs, ça renvoie à du conflit, ça renvoie à de ce qui est désirable, ça renvoie aussi à de la politique, effectivement, dans le sens où c'est aussi les responsables politiques qui sont là pour nous aider à constituer, à nous diviser sur des sujets importants. Après, il y a toujours cette logique entre le haut et le bas, entre des valeurs qui viennent d'en bas, qui émergent de groupes sociaux qui n'étaient pas représentés, notamment dans les partis, ou de nouveaux enjeux, hein, autour de l'environnement, autour de l'égalité climatique. Et puis, de l'autre côté, aussi une dimension des partis qui eux-mêmes structurent les valeurs sur lesquelles les gens vont avoir à voter. Ce qui fait que la gauche ou la droite, c'est pas la même sous la Troisième République, sous le début de la Cinquième, ou aujourd'hui.
Jérôme Sainte-Marie.
Oui, cette question des valeurs est évidemment centrale dans le discours politique. Je ne suis pas sûr qu'elle soit, par contre, centrale dans la réalité de la politique. Je m'explique. Les valeurs renvoient souvent à des valeurs individuelles, des valeurs morales. Notre corpus de valeurs essentielles est issu du christianisme. Ça parle d'abord à l'individu, que ce soit, je sais pas, le goût de la vérité, la liberté, etc. Et c'est manié dans tous les sens par quand on passe à l'échelon collectif, à l'échelon politique. Je m'explique. Par exemple, dans les années 80, il y avait un combat autour de la valeur liberté. La droite, qui était en opposition, défendait les libertés. La gauche défendait la liberté. Et effectivement, la droite essaie d'expliquer qu'il fallait avoir la liberté d'entreprendre, la liberté, toutes sortes de liberté pour scolaire, tout cela. Et la gauche expliquait qu'inversement, la vraie liberté était liée à une forme d'égalité des conditions. Ces deux positions étaient légitimes. Après, je prends un exemple contemporain, qui va parler un petit peu d'ailleurs aux catholiques. Le devoir d'hospitalité. Le devoir d'hospitalité, à titre individuel, est très fort dans le message du Nouveau Testament. Mais certains défendent avec quelques pertinences, même théologiques, le fait que ce devoir d'hospitalité individuel n'est pas forcément un devoir d'hospitalité collectif. C'est toute la question des migrants et la polémique dans les milieux chrétiens autour des positions du pape François, par exemple. Donc, si vous voulez, les valeurs me semblent une notion très éloignée, au fond, de la décision politique. Autant les doctrines politiques, le socialisme, le libéralisme, etc., me paraissent être en prise directe avec l'action publique, autant les valeurs me semblent être des concepts extraordinairement manipulables.
Rapidement, Jérôme Sainte-Marie, pourquoi, à ce moment-là, les partis politiques attachent-ils autant de valeurs aux valeurs, justement?
Oh bah oui, parce que c'est aussi la façon dont les militants et les électeurs peuvent s'approprier leur vote. Et même si ces valeurs sont souvent le masque d'intérêts sociaux, eh bien, évidemment, personne ne va dire qu'il va défendre telle ou telle position pour payer moins d'impôts, par exemple. Inversement, si c'est pour défendre la liberté, le progrès, etc., évidemment, c'est plus assumable et plus instrumentalisable dans un discours politique.
Sandra Logier.
Mais je crois que il y a quand même une transformation en ce moment de la place des valeurs. Et en effet, peut-être que les grandes valeurs abstraites ont moins leur place dans la politique réelle. Mais je crois qu'il y a constamment, en fait, une revendication de valeurs par les citoyens et par les individus. Mais plutôt comme eux-mêmes porteurs de ces valeurs, plutôt que comme obéissant à des grandes valeurs comme le patriotisme, etc. Et donc, je crois que là, si on prend justement un concept comme la démocratie, avant, c'était plutôt un régime politique, hein. C'est pas vraiment une valeur en tant que telle. Et ça s'est transformé en revendication politique et en valeur parce que, justement, les jeunes ou les citoyens ou d'autres vont, en fait, revendiquer, en fait, la démocratie comme quelque chose qui donne plus de pouvoir individuel, qui leur donne une voix. Donc, il me semble que les valeurs, en effet, peuvent paraître très abstraites et parfois éloignées de la réalité, mais que dans la plupart des actions politiques, on va trouver une revendication de valeurs, mais plutôt avec une sorte de revendication d'être soi-même porteur et responsable des valeurs. Donc il y a une vraie... Peut-être que c'est une transformation politique.
On va en parler un peu plus tard dans l'émission. Jérôme Sainte-Marie.
En une phrase, moi je propose une toute petite typologie, si vous voulez. Vous avez peut-être trois niveaux. Le niveau de l'opinion. Et c'est un sondeur qui parle, c'est un niveau basique où on doit réagir à des questions qu'on pose. L'opinion, c'est quand même très peu élaboré. Il y a l'opinion, alors là, il y a un niveau ensuite un peu stratosphérique qui est celui des valeurs. Et puis entre les deux, vous avez ce niveau qui me paraît le plus pertinent pour l'action politique et la réflexion politique, c'est tout simplement celui des idées. C'est un peu différent.
C'est d'ailleurs une distinction qu'avait faite Jean Touchard de Sciences Po, la fameuse théorie des infusoires, du haut en bas ou du bas en haut des idées politiques. Mais moi, je pense que justement, peut-être, vous avez déjà un peu abordé cette question, Antoine Genton et Sandra Logier aussi. C'est une question, quand on entend justement ces hommes politiques, de se poser... Si les grands partis de gouvernement, par exemple, n'ont pas quand même un peu dérivé par rapport à leurs valeurs originelles, et que c'est quand même un aspect de la crise du politique.
C'est souvent la critique qu'on leur a portée.
Oui, et je crois à juste titre, j'en prends que deux exemples. Il y avait une valeur cardinale de la gauche qui était la laïcité. Bon, on le voit très bien dans le discours de la gauche, notamment de la gauche, hein, une dérive très nette sur ces questions et un abandon très large de la revendication de laïcité. Vous avez à droite, inversement, c'est tout à fait, alors l'actualité de ces jours-ci est tout à fait passionnante, vous avez à droite un lâcher prise sur les questions de liberté économique. On voit bien, quand on voit la droite française s'opposer à la privatisation d'ADP, hurler quand on supprime les emplois aidés, enfin, on est très loin du discours chirurgien des années 80. Donc il y a là véritablement et ce qui fait que les deux électorats ne se reconnaissent plus vraiment dans des formations politiques. Et je ne pense pas que pour autant les valeurs, elles, soient désuètes. Je crois qu'il y a un problème de de transmission de ces valeurs par les formations politiques elles-mêmes.
Pour aller plus loin et avant de donner la parole à Sandra Laugier, Christophe Devoogd, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des valeurs qu'on pourrait définir comme des valeurs de gauche et des valeurs de droite?
Alors, comme l'a très bien dit, je ne sais plus lequel d'ailleurs, un peu tout le monde d'ailleurs finalement, quand on est dans une perspective de long terme, on retombe un peu sur, vous savez, ce qu'on appelle la perspective de René Raymond, vous savez, les sensibilités. Si on étudie les sensibilités, elles durent, hein. Si on étudie les enjeux historiques, et là je crois que c'est très important, c'est qu'à certains moments, il y a un enjeu, ça peut être l'égalité, qu'on rebaptise à gauche la justice, mais qui est, c'est en fait la valeur d'égalité. C'est la justice étant le joli parement de l'égalité. Mais il y a vraiment des enjeux cruciaux. En ce moment, par exemple, la laïcité redevient un enjeu fondamental, qui avait totalement disparu, que moi quand j'étais jeune, plus personne ne parlait de laïcité. La question de la nation revient, d'ailleurs c'est une analyse qui a été faite récemment, la nation revient avec, à travers le double défi de la globalisation, de l'immigration, etc. Donc il y a, et à ces moments-là, il y a des repositionnements, des nouveaux clivages, la gauche n'est pas forcément à gauche, la droite n'est pas forcément à droite, et par rapport à ces enjeux historiques, là, il faut se définir dans le moment. Donc il faut à la fois combiner des sensibilités de long terme et des enjeux historiques de court terme, et c'est ce qui fait le paysage politique.
Et la difficulté aussi des partis politiques à trouver leur identité et leur ligne. Sandra Laugier, puis Vincent Thibéry.
Oui, la laïcité, c'est un bon exemple justement de ces valeurs hein, qui se sont transformées et qui finalement n'ont plus forcément l'adhésion, le même sens donc que celui qu'il avait auparavant, c'est-à-dire une sorte de valeur un peu absolue et une valeur qui était une forme d'identitaire aussi, qui permettait une forme d'intégration à un modèle. Et donc c'est vrai que ce lien entre des valeurs, une certaine tradition, et le fait d'adhérer à des valeurs comme créant un groupe et une légitimité, je crois que ça, c'est quelque chose qui a été en effet mis à mal, que ce soit pour la laïcité, même pour le progrès. C'est vrai que ça a l'air d'être une notion sur laquelle on sera tous d'accord. Simplement, toutes ces dernières années ou décennies ont bien montré que le progrès était très inégalement partagé au niveau global, par exemple, que le progrès avait parfois des conséquences aussi extrêmement, extrêmement désastreuses en technologie. Donc, en réalité, même les valeurs qui paraissent les plus évidentes ont été vraiment modifiées, peut-être pas attaquées, mais en tout cas, elles ont été nuancées et elles ont été vraiment transformées par des débats qui sont réellement politiques et sociaux.
Vincent Thibéry.
Oui, pour aller dans le sens de mes deux co-invités, quand vous regardez la question de la laïcité et la manière dont cette laïcité était traduite chez les électeurs, ce qu'on constatait dans les années 90 encore à l'époque, c'est que la laïcité c'était une valeur de gauche et c'est une valeur qui se construisait contre la religion catholique. 10 ans plus tard, on a complètement changé. Et c'est un travail politique notamment, c'est-à-dire que progressivement s'est mis en place une laïcité compatible avec, on va dire, les racines chrétiennes, compatible avec le catholicisme, et portée notamment par le parti de droite, avec notamment comme adversaire, cette fois-ci, plus le catholicisme, mais l'islam, l'étranger, etc. Dans la même idée, il faut bien avoir en tête qu'il y a un travail politique, un travail d'appropriation de thèmes, de thématiques, et donc il faut bien voir que le progressisme aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui en parle, alors que clairement, le sens qu'il lui donne n'est pas celui qu'on donne à gauche. Et last but not least, quand on parle d'égalité, il faut bien voir que entre la sphère des partis et la sphère des électeurs, les choses sont plus compliquées. C'est-à-dire que l'égalité chez les électeurs de gauche, ça reste encore quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement structurant dans leur demande qu'on mesure dans les enquêtes depuis des années. Or, très clairement, ce discours-là a plus de mal à être tenu par des acteurs. En gros, aujourd'hui, ce qui peut manquer à une certaine gauche, c'est une forme d'incarnation.
Justement, pour continuer ce que vous dites, Vincent Thibéry, Jérôme Sainte-Marie, le RPR dans les années 80-90 était relativement aisément identifiable d'un point de vue de valeur. On savait ce qu'il défendait. Pour le Parti Socialiste, on pourrait dire à peu près la même chose. On a entendu François Mitterrand parler de justice, donc d'égalité. Vous parliez tout à l'heure de la liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, les partis politiques français sont réductibles, pourraient être réductibles à des valeurs ?
Oui, je crois en ceci que les valeurs me semblent opérantes en politique qu'à condition qu'elles soient liées à des intérêts sociaux. Vous savez, c'est toute une polémique, savoir est-ce qu'on doit mener la politique d'intérêt de catégorie sociale ou bien est-ce qu'on doit mener une politique de valeur. Évidemment, quand un parti politique a du mal à servir sa clientèle sociale principale, eh bien, il se réfugie dans les valeurs. On a un exemple canonique, c'est le Parti socialiste dans les années 80. Quand en 83-84, il renonce à sa politique de transformation sociale, eh bien, et qu'il se dissocie notamment des intérêts, en tout cas tels qu'ils étaient perçus, des catégories populaires et notamment ouvrières, à ce moment-là, c'est Laurent Fabius et tous les autres qui font une politique de valeur. Ça sera l'antiracisme, ça sera les droits de l'homme, ça sera l'Europe. Justement parce que ils ont du mal à articuler un discours très très précis. De la même manière, aujourd'hui, je pense que Emmanuel Macron et La République en Marche sont plus à l'aise sur le terrain des valeurs parce que ils ont réussi à articuler cette notion de progressisme avec les intérêts d'une certaine catégorie sociale, celle qui vote pour eux, enfin ce qu'on appelle la bourgeoisie, notamment la bourgeoisie managériale, pour dire les choses clairement, et qui identifie dans derrière cette notion de progressisme une adaptation à la mondialisation, la recherche de la croissance d'un monde capitaliste, et de ce point de vue-là, ça marche bien.
Mais ce que vous dites,
vous dire, c'est que les valeurs, c'est quelque chose.
Les valeurs déconnectées, mais les valeurs déconnectées des intérêts sociaux, ça fait perdre le parti. Et là, si on continue votre raisonnement pour les années 80, c'est ce qui explique la défaite de 1980. Aux législatives.
Non, ça a permis d'amortir cette défaite, déjà. Mais quand, effectivement, le Parti Socialiste a définitivement renoncé à défendre des intérêts particuliers, notamment ceux de la fonction publique ou des classes moyennes modestes, ça, c'est très précis. Hein. C'est le discours de François Hollande puis Manuel Valls sur le pacte de responsabilité. À ce moment-là, c'est la catastrophe électorale assurée. Le problème qu'a la droite aujourd'hui, c'est moins de fluctuer sur ses valeurs que de voir que les intérêts sociaux des catégories qui votaient pour elle, notamment les cadres du privé et les retraités, sont aujourd'hui très servis par le macronisme.
Vincent Tibéri veut réagir.
Oui, tout à fait, parce que si on regarde dans la sociologie du vote et dans le long terme, on constate effectivement que la composition sociale des votes, notamment de la gauche du gouvernement, a beaucoup évolué, mais elle correspondait aussi à des transformations de valeurs qui ont un vrai sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la question sociale, est montée à partir des années 80, une question qu'on dit culturelle, hein, que Engelhardt appelle la nouvelle politique, autour des droits des minorités, autour du multiculturalisme, autour de l'immigration, autour du refus d'une forme d'autoritarisme, et ces valeurs-là ont commencé à structurer fortement et la gauche et la droite. Alors, c'est en partie aussi parce que la stratégie du Parti Socialiste, comme d'ailleurs de la droite, n'était plus forcément de miser autant qu'avant sur les dimensions socio-économiques, sur les dimensions de rôle de l'État, de redistribution, etc. Ce qui fait que dans le clivage qui s'est joué entre Nicolas Sarkozy et François Hollande ou Ségolène Royal, les valeurs culturelles jouaient autant sur le vote pour l'un ou pour l'autre que les valeurs socio-économiques.
Christophe De Vogt.
Oui, il faut peut-être pas en effet réduire l'expression de valeur à uniquement aux valeurs sociétales. C'est un peu Jérôme Zadmari qui a appelé vers le sociétal, ce qui est un petit peu un autre, pas tout à fait le même débat, sociétal ou social. Là, je le suivrai totalement. Mais valeur, c'est pas seulement dans le sociétal. Je veux dire, la liberté, ça organise l'économie, ça organise la justice, ça organise un tas de choses. Ça organise la liberté d'expression, enfin un tas de domaines. L'égalité, idem. Donc, il y a là quand même tout un champ qui reste à mon avis quand même très productif, même si finalement, je crois qu'on est une question de vocabulaire, ce que Jérôme Zadmari appelle idée politique, nous deux, nous avons tendance à appeler ça valeur politique. Donc, le virement vers le sociétal, quand même, c'est vrai que c'est une préoccupation. Je pense tout de même que ça reste une erreur stratégique de la gauche, quand même, parce que quand on regarde vraiment les enquêtes d'opinion, c'est là je parle sous le contrôle de Jérôme Zadmari, il y a quand même des déterminants qui sont plus massifs, plus décisif dans le vote, et on a étudié ça de très près. C'est davantage, je dirais, une préoccupation médiatico, je dirais, intellectuelle. Les questions sociales, économiques lourdes, ça c'est l'accord toujours du marxiste que j'ai à côté de moi et du libéral que je suis, c'est toujours quand même plaisir. Une question, les questions d'intérêt collectif restent des questions majeures, et je pense que pour la droite c'est très clair. Pour la droite, son échec, c'est de ne plus identifier les intérêts de ses électeurs.
C'est intéressant. On va venir aussi à une autre notion.
Pardon pour le marxisme.
Une autre notion définie par la France des valeurs. Avant de donner la parole à Sandra Logier, rapidement, Jérôme Sainte-Marie.
Oui, non, mais cette notion de marxisme n'est pas infamante, mais elle était, à mon avis, inadéquate. Vous savez, si vous avez des gens comme les gens de l'école de Columbia, comme Lagerfeld, ils expliquent précisément, que j'ai appris donc à l'Institut d'études politiques, comme Christophe de Vougt, sans doute, eh bien, cette explication du vote des Américains, en l'occurrence, c'est un bouquin de 1944, donc The People's Choice de Lagerfeld, eh bien, effectivement, explique que le vote, à ses yeux en tout cas, et d'après cette étude, procède des conditions sociales et de la socialisation des gens dans le cadre d'un milieu social. Donc la notion de classe sociale, par exemple, est une notion qui est issue des auteurs libéraux, par exemple, du 19e siècle,
ils sont d'accord, on est
d'accord. Et non pas du marxisme. Juste un petit point pour revenir au sujet sur les valeurs. Je crois que les valeurs n'ont de sens en politique que quand elles sont qualifiées. Je prends l'exemple, par exemple, de l'égalité. Si on parle de l'égalité des conditions ou de l'égalité des chances, c'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, vous voyez qu'actuellement, il y a un discours cohérent et structuré d'Emmanuel Macron et de ses amis sur l'égalité des chances, qui est une façon justement de ne pas traiter forcément l'égalité des conditions.
Sandra Loger, puis Vincent Thibéry.
Oui. Je crois qu'il faut aussi se méfier d'un usage de valeurs très général, hein, puisque ça devient facilement moraliste, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être possesseurs des valeurs, et je crois qu'on a ça dans le discours réactionnaire tel qu'on l'a entendu dans les exemples, et puis aussi dans le discours
d'une certaine gauche.
Et donc, il y a quand même cette dimension qui fait qu'en effet, la véritable politique pratique, c'est peut-être pas les valeurs en tant que telles, mais c'est quand même la construction.
Vous voulez dire que certains pensent être du côté du bien à chaque fois avec les valeurs qu'ils défendent ?
Oui, il y a cette idée, en effet, qu'on est du côté
de ce qu'on estime
être le bien, et que surtout on est par sa propre position de pouvoir politique ou social en position de définir le bien. Et donc ce qui se passe de façon vraiment intéressante depuis un moment avec des revendications démocratiques, c'est cette idée que finalement la définition de ce qui compte n'est pas réservée à certains, hein, que chacun a aussi le droit de le dire, et que effectivement même ces grandes valeurs dont vous parliez comme liberté, égalité, en effet, il y a un débat, une discussion par rapport à ces notions, hein, l'égalité, voilà, c'est pas toujours défini de la même façon, que la liberté, quand ça devient la liberté d'importuner les femmes, par exemple, on n'est pas toujours d'accord avec la liberté, et donc, cette liberté, tout à fait. En tout cas, les débats politiques, ils portent non pas sur les valeurs en tant que telles, je crois que c'est très trompeur et abstrait, mais c'est vraiment sur la façon dont chacun peut définir à propos et à s'approprier les valeurs.
Vincent Thibéry, puis Christophe de Vogt.
Oui, alors, moi qui enseigne aussi Lagerfeld à Sciences Po, anciennement à Sciences Po Paris, maintenant à Sciences Po Bordeaux, je rappelle que dans la théorie de Lagerfeld, c'est on vote politique et on vote en fonction des normes sociales de son groupe. Donc il faut bien se souvenir que là, on n'est même pas forcément dans des valeurs, on n'est pas dans un modèle centré sur l'individu, mais dans les convenances. Et donc on est là dans un monde qui a complètement changé. C'est-à-dire qu'on n'est clairement plus dans ce monde où la religion vous structurait, où l'appartenance de classe vous structurait. Aujourd'hui, l'identité sociale est beaucoup plus plurielle, et donc du coup, les valeurs le sont aussi. Et ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on est, on est dans différentes identités, dans différents groupes, qu'on n'a pas nécessairement des valeurs. Ce qui est particulièrement intéressant, notamment dans les domaines qu'on a pu voir émerger à travers la European Value Survey, qu'on pose depuis 1981, c'est quand même une enquête qui permet de montrer qu'on est à la fois dans une montée de l'individuation, où les individus essayent d'exercer leur libre arbitre, de vivre ce qu'ils souhaitent vivre, et d'ailleurs ça fait partie des valeurs qu'ils essayent de défendre, mais l'individuation ne veut pas dire l'individualisme. L'individuation veut aussi dire parfois des demandes de société, des demandes de politique, etc.
Puisque vous avez répondu directement à Jérôme Sainte-Marie, je donne la parole à Jérôme Sainte-Marie avant de la donner à Christophe.
Oui, Dabon. Monsieur Thibéry, je crois qu'effectivement la complexification du réel fait partie des charmes du travail universitaire, mais le réel nous rappelle parfois son immense simplicité, notamment lors des dernières élections européennes. Vous avez remarqué la corrélation presque incroyable, presque unique, sauf depuis les référendums européens, entre le prix du mètre carré dans les communes et le taux de vote pour La République En Marche. Et inversement, dans le sens inverse, pour le Rassemblement National. On peut voir de la complexité partout, sauf que l'évidence que nous avons sous les yeux depuis 2 ans, c'est au contraire l'immense simplification du réel en termes politiques et en termes électoraux, et la bipolarisation nouvelle qui se met en place. Donc effectivement, nous sommes des individus, nous l'avons d'ailleurs toujours été, et je vous renvoie à des sondages, notamment de l'IFOP, qui montrent que le sentiment de faire partie d'une classe sociale est à 3 points près le même qu'en 1967. J'ai découvert ça récemment. Et donc, il ne faut pas croire qu'autrefois, les gens se vivaient comme faisant partie aux classes sociales et se baladaient avec les uns avec la Bible à la main et les autres avec le manifeste du Parti communiste. Ça, moi qui ai 53 ans, je ne l'ai jamais connu. Et je crois qu'aujourd'hui, à l'inverse, et depuis quelques années, pour des raisons très logiques, nous avons une polarisation sociale et une simplification des choix politiques qui est incroyablement liée au patrimoine financier et aux revenus.
Bon, Vincent Tiberi veut répondre. La discussion s'engage entre les deux. Dernière réponse et ensuite Christophe De Vogt. Allez-y, rapidement, Vincent Tiberi.
Je laisse la parole. Je pense qu'on est clairement pas encore dans un monde où les choses se sont structurées. Pour l'instant, on a deux partis qui semblent survivre, mais ces partis-là ne sont pas forcément structurés, y compris en termes de position sociale. Il faut quand même, là aussi,
vous
avoir.
Vous pensez
en
à La République en Marche et au Rassemblement National?
Tout à fait. Et je pense que Jérôme Sainte-Marie connaît bien cette théorie du nouvel électeur. Il faut quand même bien avoir en tête qu'aujourd'hui, l'électorat bouge énormément et c'est pas une seule variable qui permet de le montrer. Alors, on peut très bien prendre d'autres corrélations qui marcheront tout aussi bien et seront tout aussi compliquées. Hein, prenons par exemple le diplôme. Le diplôme, ça fait voter La République En Marche, ça fait voter ELV, mais clairement ces deux électorats ne sont pas les mêmes parce que les valeurs ne sont pas les mêmes. Et donc, au contraire, on est face à une vie politique extrêmement intéressante de ce point de vue-là.
Bon, on fait circuler la parole. Christophe De Vogt.
Oui, c'est là, peut-être que, sans vouloir vous mettre d'accord, ce sera difficile, mais...
oui, on l'a compris.
Mais la mémoire des sondages chez Jérôme Sainte-Marie est impressionnante. Non, c'est-à-dire, je crois qu'il est bon quand même de rappeler quelques fondamentaux qu'on a un peu tendance justement dans le débat médiatico-politique du jour à oublier. Je pense, pour dire les choses très simplement, que ça ne sera pas sur la PMA que se passeront les prochaines élections présidentielles. Vous voyez ce que je veux dire? Ce ne sera pas le sujet. Et comme ça n'a pas été le mariage pour tous, etc. Sinon, le Parti Socialiste aurait fait 75% des voix. Donc, vous avez là, je pense que... je ne vais pas aller aussi loin que Jérôme Sainte-Marie, mais je pense quand même qu'il est bon de rappeler certains fondamentaux qui, en effet, ont peut-être tendance à s'accentuer. Pas seulement, en effet, sur le patrimoine financier, hein, sur le patrimoine culturel. Là, je crois que Vincent Tiberi a raison de rappeler que la question du diplôme. Mais quand même, il y a des éléments quand même de jeu dans le modèle. Maintenant, comment tout cela va évoluer? Comment est-ce que les partis politiques vont surtout prendre en cause tout ça? Et sur la démocratie, je voulais dire une chose quand même sur la démocratie, et pas toujours dire la démocratie, les jeunes qui la veulent, etc., c'est merveilleux, c'est une valeur. Non, l'enquête que nous venons de faire à la Fondapol sur les démocraties sous tension montre qu'au contraire, il y a une demande d'ordre et d'autorité extrêmement forte, notamment chez les jeunes générations. Donc encore attention au petit brouhaha de notre monde. Il y a, dans le fond, la génération qui est la plus demanderesse, par exemple, d'un homme autoritaire pour diriger le pays, hein, eh bien, ce sont les jeunes. Ce ne sont pas du tout les seniors. L'armée qui prennent le pouvoir, ce sont les actifs et les jeunes. Donc, la demande de démocratie que l'on entend partout, elle existe, mais elle est plutôt sur le recul qu'en avancée.
Sandra Logier.
Alors, je ne dirais pas de toute façon que ça serait pas forcément non démocratique de ne pas écouter ces jeunes. Hein. De toute façon, la démocratie, c'est vraiment le pouvoir des individus et du peuple. Donc, s'il y a une volonté pour plus d'organisations, en réalité, ça n'est pas absolument contre la démocratie. Mais je suis un peu étonnée que l'on considère en fait que ce qui est de l'ordre, ce que vous appelez le sociétal, est forcément du côté en fait des valeurs. J'aimerais savoir pourquoi en réalité, puisque qu'est-ce qu'il y a, en quoi est-ce que la question de la justice fiscale ou serait moins du côté des valeurs que celle de la PMA, et en quoi c'est une question de valeur
Là, je suis assez d'accord avec vous.
Il n'y a pas de raison.
Je pense qu'on peut élargir. En fait. Je suis assez d'accord avec vous.
Là. Les partis politiques ont-ils encore des valeurs? Vous écoutez du grain à moudre d'été sur France Culture. Jérôme Sainte-Marie, vous vouliez réagir à ce que disait Sandra Logier?
Oui, c'est effectivement. Je ne voudrais pas être caricaturé trop mon propre propos en disant que tout est réductible à des intérêts financiers collectifs. Il y a effectivement, à travers la structuration de la société en catégorie sociale, voire en classe sociale en réalité, vous avez à partir de là des choix différents. Je vous prends un exemple très lointain, pour comme ça, ça sera totalement apaisé. C'est dans les années 20-30, vous aviez là-dessus, c'est Monsieur Bergougnoux, je crois, et Grimbert qui avait travaillé là-dessus. Non, pas Grimbert d'ailleurs, je me confonds avec quelqu'un d'autre. Mais bref, sur la social-démocratie, il y a effectivement, au sein de la des catégories ouvrières, il y avait effectivement un conflit de valeurs entre ceux qui disaient il faut l'égalité à tout prix, quitte à passer par une révolution autoritaire sur un modèle stalinien, et puis ceux qui disaient oui, l'égalité c'est bien, on aimerait bien améliorer nos conditions et puis être nous rapprocher quand même, bref, de ceux qui sont au-dessus de nous, mais pas au prix de sacrifier la liberté et notamment et donc le jeu démocratique. Donc là, on était effectivement dans des catégories sociales qui étaient à peu près équivalentes. On était bien dans un conflit politique qui était un conflit de valeurs. L'égalité au prix de la liberté ou pas. Donc effectivement, ça se joue là-dessus. Mais je ne crois pas sincèrement, mais ça c'est un débat qui dépasse l'émission certainement, au fait que les valeurs soient réductibles à des valeurs individuelles, plus en tout cas aujourd'hui que c'était le cas auparavant.
Christophe de Vogt, si encore on prend un peu de hauteur sur ce, au-dessus du champ politique français, vous l'observateur de la vie politique française, quelles sont selon vous les grandes valeurs que portent aujourd'hui les partis français, s'ils en portent justement?
Alors écoutez, le plus, ça va peut-être vous surprendre, mais le plus cohérent, et c'est peut-être la cohérence en politique, ça paye comme on dit, hein. Je trouve qu'actuellement le parti le plus cohérent c'est La République En Marche. C'est-à-dire que on a une idéologie structurée, enfin moi dès l'élection.
Autour de quelles valeurs?
Autour de ce qu'on appelle les valeurs saint-simoniennes. Hein, c'est-à-dire, vous savez la devise du Brésil,
ordre et progrès.
Cette devise elle vient d'Auguste Comte. Auguste Comte c'était le secrétaire de Saint-Simon. D'ailleurs, le président de la République a rappelé récemment qu'il était saint-simonien dans sa conférence de presse. Or ça, c'est une chose qu'on connaît mal en France, le saint-simonisme, alors que ça a été une idéologie qui a eu un effet considérable dans l'histoire du pays. Car il y a plein de saint-simoniens qu'on ignore, c'est-à-dire notamment nos ingénieurs, nos énarques. C'est une idéologie très très qu'on trouve chez Giscard d'Estaing, justement, et qu'on retrouve dans le macronisme. Et le côté ordre, qui se développe récemment, on l'a vu avec les Gilets jaunes, et qui fait d'ailleurs que l'électorat de droite, pour qui, ne l'oublions jamais, c'est quand même la valeur centrale, l'ordre. Hein, eh bien, l'électorat de droite a reconnu en Macron le porteur de l'ordre, notamment dans ce qu'on peut appeler la répression du mouvement, au sens technique, des Gilets jaunes. Donc cette cohérence idéologique saint-simonienne avec toujours cette idée de progrès, notamment en matière là, sociétale, le progrès c'est bien. Le macronisme dit le progrès c'est bien. Bon, il est le seul. La gauche dit pas toujours, ça dépend du progrès. La droite dit pas toujours, ça dépend des progrès. Vous avez là une idéologie bien constituée. Et justement, les deux partis traditionnels sont en crise idéologique majeure pour une raison, à mon avis, assez importante, c'est que ces deux formations ne travaillent pas beaucoup.
Elles ne réfléchissent pas.
Parce que maintenant, elles ne réfléchissent plus.
Elles
ont gouverné. Quand on gouverne, on ne réfléchit plus.
Sandra Laugier, puis Jérôme Sainte-Marie.
Oui, je crois qu'on voit justement l'effet très idéologique, voire toxique, du recours et du positionnement sur les valeurs, à propos de ce que vous dites, de La République En Marche, puisque, en effet, c'est un vrai progrès, mais en tant que défini par, justement, le mouvement.
Le saint-simonisme est un élitisme.
Voilà, bien sûr, et c'est le progrès en tant qu'il profite à certains. Donc, évidemment, que cette question...
C'est pas le rêve. Le rêve saint-simonien, c'est quand même...
C'est Saint-Simon,
oui,
peut-être.
L'extinction du populisme.
Dans la situation actuelle, oui, mais dans la situation actuelle, c'est vraiment, en fait, l'utilisation du vocabulaire des valeurs pour finalement se poser comme... unique porteur de ces valeurs. Donc je crois qu'il y a ce côté extrêmement, extrêmement moraliste. Après, c'est extrêmement intéressant de voir comment, en fait, les valeurs sont et doivent être un objet de débat, de discussion. Hein, je reviens toujours là-dessus. Mais si on considère, par exemple, qu'il y a une valeur maintenant assez transversale qui va être l'écologie, hein, on a l'impression que tout le monde veut revendiquer cette valeur. Est-ce que c'est une valeur? Et en tout cas, que certains vont dire que c'est pas une valeur spécialement de gauche, hein, alors que ça a été porté
par des partis. En tout cas, c'est un thème
sur
la question de la vie politique française. L'écologie,
forcément, non, pas. Mais en tout cas, juste pour terminer, de fait, l'écologie, c'est soit la protection de la nature, comme c'était au départ, soit c'est l'attention au bien-être, donc une écologie plus politique, l'attention au bien-être des populations. Et là, c'est des interprétations très différentes. Et le débat politique, il va pas être autour de la valeur écologique, il veut rien dire, mais sur ce qu'on va, ce qu'on va y demander, ce qu'on va en exiger.
Il nous reste un peu moins de 5 minutes. Jérôme Sainte-Marie, puis Vincent Tibéri.
Oui, je rejoindrai Christophe de Vogt une nouvelle fois, mais pour souligner à quel point le projet macronien est probablement le plus cohérent par rapport à l'offre politique actuelle. Alors, vous savez, autrefois, très rapidement, on avait l'idée, depuis des décennies, à tort ou à raison, que la droite, c'était avant tout le libéralisme économique, mais pas trop, mais quand même des valeurs traditionnelles issues du catholicisme.
Un conservatisme.
Et inversement, la gauche, c'était absolument pas le libéralisme économique, plutôt l'étatisme, mais tendanciellement, bien sûr, mais inversement, le libéralisme culturel pour s'arracher, justement, des contraintes de la tradition chrétienne. Donc, il y avait, chacun était libéral d'un côté, mais pas de l'autre. Le macronisme, par bien des côtés, est la réconciliation du libéralisme culturel et du libéralisme économique, et correspond assez bien à ce que décrit dans ses différents ouvrages, qui sont toujours un peu les mêmes d'ailleurs, de Jean-Claude Michéa, quand il montre l'unité fondamentale et philosophique à ses yeux, je ne sais pas s'il a raison, mais en tout cas c'est assez convaincant, du libéralisme. Il y a un troisième libéralisme, qui est le libéralisme politique. Et là, on voit bien, et ça a été évoqué, que la réconciliation du libéralisme culturel et économique ne s'accompagne pas forcément. On a plein d'exemples à travers la planète du libéralisme politique.
Vincent Tibéri.
Oui, je voulais revenir sur les conditions sociales de la production des idéologies dans les partis. Parce que mine de rien, je veux bien que le projet macroniste soit très cohérent. Moi, je le vois pas vraiment. Mais surtout, quand même, la manière dont les partis élaborent aujourd'hui leur corpus doctrinal est quand même très très différent de ce qu'on avait dans les années 80, voire dans les années 70.
C'est-à-dire ?
On a maintenant un certain nombre de thèses qui montrent que dans les années 70, le programme, c'était la tâche sur laquelle les différents membres des partis se battaient pour être au centre du jeu. Il y avait un travail d'élaboration doctrinale qu'aujourd'hui on ne voit plus autant. Et je pense notamment aux travaux de Raphaël Kos, qui a travaillé sur le Parti Socialiste entre les années 80 et les années 2000-2010. On n'est clairement plus dans la même histoire. Et donc, parfois, on parle beaucoup de valeurs en ce moment, mais clairement, n'oublions pas que les partis sont aussi devenus des partis de professionnels qui sont clairement dans la logique où le but du jeu est de trouver l'équation gagnante. Donc, restons prudents quant à l'élaboration d'une doctrine macronienne. Je reste encore dubitatif.
Jérôme Sainte-Marie. Qui lui aussi est dubitatif.
Oui, non, mais je crois qu'une des raisons de l'indifférenciation progressive des différents projets politiques tient au fait qu'à un moment donné, un parti politique qui a vocation à exercer le pouvoir va devoir traduire ses idées et ses valeurs en politique publique. Cette politique publique, c'est un secret pour personne. Elle est aujourd'hui décidée moins à Paris qu'à Bruxelles. Donc, à partir du moment où nous sommes dans le carcan, ou le cadre, pas le carcan forcément, ou le vecteur de progrès européen, eh bien, c'est vrai que c'est assez normal que l'antagonisme sur les programmes soit moins important qu'à l'époque des années 70, par exemple, où on avait l'impression, peut-être l'illusion, de pouvoir décider réellement d'une politique publique nationale.
Il nous reste une grosse minute. Sandra Logier, on a évoqué en début d'émission la désobéissance civile. On l'a effleuré tout au long de l'émission. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel vous travaillez beaucoup, la désobéissance
civile. Oui, et qui revient d'actualité, comme dans tout régime autoritaire. Non, pardon.
Mais en quoi cette désobéissance peut être créatrice et productrice de valeurs?
Alors, la désobéissance, c'est vraiment l'affirmation d'un individu alors c'est individualiste en effet, de décider tout seul ce qui est bon pour lui, et même pour aussi d'autres personnes, puisqu'il y a toujours un côté collectif dans la désobéissance.
C'est-à-dire que c'est pas la fin des valeurs universelles.
C'est absolument pas la fin des valeurs universelles, mais c'est plutôt cette idée profondément démocratique que la valeur, ça n'existe pas. On parle tous là de valeurs comme si c'était des objets qui existaient comme ceux qui sont dans cette pièce. Non, elles n'existent pas. Donc, elles n'existent que dans ce qu'on va faire et dans des actions, et elles font être exprimées par ce qu'on fait. Et c'est ça, en fait, que font les désobéissants, c'est de dire les valeurs vont être créées par nos actions. Et donc, il y a cette idée que, en effet, les valeurs ne sont pas préexistantes et ce n'est pas des entités auxquelles il faudrait obéir parce qu'elles sont revendiquées, affichées par des pouvoirs. Donc, de ce point de vue-là, la désobéissance, c'est aussi la création de nouvelles valeurs.
Et bon, on va se séparer sur cette analyse. Merci de cette discussion très féconde et très riche. Merci à tous les quatre. Christophe Devoogd, historien, professeur à Sciences Po, vous enseignez l'histoire des idées politiques. Sandra Logier, professeur de philosophie à l'Université Paris 1. Jérôme Sainte-Marie, président de Pollingvox, institut de sondage. Vincent Tibéri, professeur à l'IEP de Bordeaux en duplex. Merci donc à nos amis de France Bleu Gironde. Merci également à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Marguerite Caton, Élodie Piel, Margot Leridon, Roxane Poulain et Valentin Berg. Réalisation Thomas Jost, mise en onde Anthony Thomasson. Bonne soirée.